perkeleen tontot!
Yes, salut à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1 dans l'émission Metal Check Me Load qui, comme chaque semaine, eh bien, va vous proposer un petit tour d'horizon des sorties du moment. Alors aujourd'hui, on est le 25 janvier, on a un peu moins de sorties que la semaine dernière où vraiment voilà, c'était une véritable avalanche avant même que la neige n'arrive. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins important, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent aujourd'hui. Je vais donc vous présenter, allez, je les compte, 1, 2, 3, 4, 5 nouveautés de ce jour. On reviendra aussi sur une ou deux petites choses qui sont passées à travers les mailles du filet de ces deux dernières semaines. Et puis, on terminera l'émission avec votre rubrique Sortez Cover, qui va se rejoindre aujourd'hui avec l'autre rubrique qui est d'habitude en alternance, la rubrique 20 ans dans tes dents, puisque on va écouter un morceau de 1998 qui sera à la fois une reprise et bah, à la fois un morceau qui peut rentrer dans la rubrique qui célèbre tous les 15 jours les 20 ans de l'émission Check Me Load. Voilà, concernant les styles de musique qu'on va écouter aujourd'hui, bah écoutez, ça va encore être assez varié, puisqu'on aura du metalcore, on aura du hard rock, on aura du heavy metal progressif, on aura du doom, on aura du death, donc vous voyez, il y en aura encore un petit peu pour tous les amateurs de metal, quels qu'ils soient. Et on va commencer par, on va dire, la grosse sortie du jour. Alors c'est pas ma préférée dans tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais voilà, on en parle depuis des semaines et des semaines, c'est le disque de ce 25 janvier. Il s'agit du groupe Bring Me The Horizon, qui revient aujourd'hui avec un album qui s'appelle Ammo. Alors, quelques mots sur Bring Me The Horizon. Enfin, Bring Me The Horizon, d'ailleurs, si je le prononce correctement. C'est un groupe qui nous vient de Sheffield, en Angleterre, qui a été créé en 2004 par des musiciens qui sont issus alors de diverses formations, parmi lesquels on trouve le chanteur Oliver Sykes, le guitariste Lee Malia ou encore le batteur Matt Nichols. Pour ce qui est du style du groupe, eh bien, on peut dire que c'est un metalcore en perpétuelle évolution au fil des albums. Il y a des sonorités, des influences qui vont être aussi variées que du deathcore au début pour ensuite arriver à des choses plus métal alternatif, post-hardcore, new metal, ou même encore pop et électro sur les dernières productions du combo. Et grâce à cette diversité, eh bien Bring Me The Horizon va largement contribuer à populariser la scène metalcore, dont il est aujourd'hui, on peut le dire, un des poids lourds. Alors si le groupe connaît un tel succès, c'est quand même pas non plus simplement dû au hasard, hein, puisque depuis ses débuts, le groupe travaille vraiment d'arrache-pied, une ténacité qui s'est finalement avérée payante, puisque ses trois derniers albums, qui étaient There Is A Tell, paru en 2011, Sempiternal, paru en 2013, et That The Spirit, paru en 2014, ont tous été acclamés par les médias. Ils ont tous également connu un énorme succès commercial. Donc voilà, il y a du boulot, il y a du résultat. Et ce succès, eh bien... le le nouvel album, je pense qu'il en prend également le chemin, cet album qui s'appelle Amo, du mot, alors d'après ce que j'ai lu, ça j'ai pas vérifié, mais ça viendrait du mot amour en portugais. Voilà, là je mets entre parenthèses à voir. En tout cas, il est tout frais d'aujourd'hui, on en parle déjà depuis des semaines et des semaines, et voilà, il était important de vous en parler aujourd'hui. Alors, si vous suivez un petit peu la carrière de Bring Me The Horizon, vous le savez peut-être, mais sans être des concept albums au sens pur du terme, les albums du groupe, ils ont tous un thème qui sert de fil conducteur. Amo, ne fait pas exception à la règle, puisqu'il explore la thématique de l'amour. Alors, à travers chacun de ses aspects, du meilleur de ce sentiment comme du pire, un thème qui a été inspiré à Oliver Sykes par son divorce. Et pour nous parler d'amour, qui est peut-être l'émotion la plus puissante que peut ressentir un être humain, eh bien, Bring Me The Horizon a choisi de composer un album encore plus expérimental, plus varié et plus étrange que ses précédentes productions. Effectivement, à chaque morceau, le groupe s'amuse à brouiller les cartes, à nous balader d'un style à l'autre, comme si ils avaient choisi de réunir en un seul disque toutes les influences qui ont marqué leur carrière. Alors, si c'est vrai qu'elles sont très très nombreuses, ces influences, et voilà, mais quand même on arrive à ne pas s'y perdre, et ça c'est important. Maintenant, ce que je dois vous confesser, c'est que Bring Me The Horizon, c'est loin d'être mon groupe préféré, mais malgré tout, bah, je dois reconnaître que Amo, c'est un album qui est inspiré, efficace, bien produit, et on va sans tarder en écouter un extrait qui s'intitule Wonderful Live, sur lequel on trouve un featuring avec mon idole Danny Fields. Alors, on distingue assez peu ses chœurs, hein, mais on peut très bien l'admirer en tant qu'acteur dans le clip vidéo du morceau, où il se la joue comique et où il fait preuve d'une très belle autodérision, notre ami Danny Fields des Cradle. Voici tout de suite Bring Me The Horizon avec le titre Wonderful Life.
I read a fun fact about the brain and how it starts to deteriorate when we get to 27 or thereabouts. It got me thinking about my head and what I can do to help stimulate it. It makes me sad, but I've forgotten what I'm on about. Problem. Don't wanna be here, still call shotgun. You got the FOMO coursing through my veins. This is not a drill, no, this is the real world. Domesticated, still a little feral. Well, don't you know that you with your mouth closed? Hey, so
obvious. So obvious, still it's kind of lush. But everybody knows I made vows. Left feet on the podium, can't think of it now and then. Hell yeah, I'm the ugliest. Everybody knows I got bounce.
Horizon sur Bike FM avec un extrait du nouvel album, album qui s'intitule Amo, qui paraît aujourd'hui. On vient d'écouter le titre Wonderful Life en featuring avec Danny Fields du groupe Cradle of Filth. J'ai des mauvaises langues, hein, on l'entend quand même un petit peu dans la chanson, notamment un peu plus du milieu. Voilà, on le distingue quand même assez bien et on le voit surtout, je le disais, dans le clip vidéo que je vous invite à aller voir après l'émission, bien sûr. Donc Bring Me The Horizon, groupe de metalcore, gros poids lourd du metalcore qui va encore à mon avis faire la tournée des festivals cet été. Voilà, du metalcore, on en réécoutera peut-être un petit peu tout à l'heure, je sais pas, quoique, est-ce que j'en ai de prévu ? Non, pas pour aujourd'hui, désolé. On change de style, on change de pays, puisque de l'Angleterre nous partons aux États-Unis, en Californie, avec un groupe qui va faire mal en ce début d'année parce que l'album est très très bon. Alors c'est un groupe qui nous a de toute façon habitué à sortir de très bons albums depuis ses débuts. Il s'agit de Rival Sons qui sort aujourd'hui un album intitulé Feral Roots. Alors Rival Sons, c'est un groupe qui nous vient de Long Beach, qui a été fondé il y a 10 ans, 2009, sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelait Black Summer Crush, alors qui est pas très connu, hein, qui a dû sortir un album si je dis pas de bêtises. Et donc Rival Sons, c'est un quatuor qui se compose actuellement de trois des membres fondateurs du groupe. Il y a Jay Buchanan au chant, Scott Holliday à la guitare et Mike Miley à la batterie. Et puis il y en a un qui les a rejoints en 2013, qui s'appelle David Best et qui est à la basse. Donc c'est du hard rock, hein, Rival Sons. C'est un hard rock dit revival, entre guillemets, qui est très en vogue ces derniers temps, avec des influences qui viennent aussi bien du blues rock des années 50 à 70, du rock and roll, du glam rock, de la soul, du rockabilly. Et d'ailleurs, Greg Moffitt, qui est journaliste de la BBC, a comparé la musique de Rival Sons à une mixture électrifiée de Led Zepp, Free, Bad Company, Deep Purple et The Doors. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, mais une petite idée très très vague, parce que c'est beaucoup plus fin que ça la musique du groupe. On va voir ça avec le dernier album, mais on va quand même revenir un petit peu sur sa discographie, puisque l'année de sa formation, le groupe va sortir Before the Fire, un premier album autoproduit qui, à son grand étonnement, va connaître un très joli succès auprès des médias. Et va donc les amener à jouer aux côtés d'AC/DC, Alice Cooper, Kid Rock, donc voilà, pas les plus petits groupes du monde. Ensuite, il va y avoir un EP éponyme en 2010, et cette fois-ci, Rival Sons va attirer l'attention d'un label qui s'appelle Irish Records, sur lequel va paraître leur deuxième album, qui s'appelle Pressure and Time, qui arrive en 2011. L'année suivante, le groupe qui est désormais basé à Nashville va sortir Eight Down, qui sera en quelque sorte l'album de la révélation pour les Américains, qui seront acclamés par les médias, et qui seront même invités au Jimmy Kimmel Live, donc émission très très importante chez nos amis américains. Le disque remporte un succès commercial très important, notamment en Europe, et à ce moment-là, la consécration est plus très loin. Elle va arriver avec l'album suivant, Great Western Valkyrie, qui habite en 2014, dans lequel le combo nous envoie pleine face à un hard rock classique, aux forts accents vintage, certes, mais qui n'a nullement oublié d'être moderne, notamment en ce qui concerne la production aux petits oignons, qui est signée pour la troisième fois par Dave Cobb. Dave Cobb, c'est une pointure de la production de Nashville, et Dave Cobb, on va le retrouver encore aux manettes sur le très réussi Hollow Bones, qui est paru en 2016, mais aussi sur Feral Roots, qui paraît aujourd'hui. Alors Feral Roots, c'est le sixième album du groupe, album avec lequel Rival Sons va placer la barre encore un cran plus haut. Bien plus que faire revivre l'âge d'or du hard rock, le combo californien, ben, ils en proposent carrément une vision aussi moderne que subtile. Et si les influences sont nombreuses, elles sont utilisées, maniées, j'ai envie de dire, avec une alchimie et une maîtrise assez impressionnante, pour donner naissance à 11 compos qui sont totalement sublimés par la voix de Jay Buchanan, qui semble totalement touché par la grâce des dieux du rock. Alors oui, Feral Roots, c'est un album beaucoup moins immédiat que ses prédécesseurs, mais c'en est pas moins un album totalement majestueux, qui est à la fois authentique, organique, sophistiqué. Pour ses 10 ans de carrière, Rival Sons signe un véritable chef-d'œuvre à côté duquel faut surtout pas passer. En voici un extrait avec un titre qui s'appelle Back in the Woods. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. C'est pas bon ça, c'était Rival Sons sur Back FM dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Un extrait de l'album Feral Roots qui paraît aujourd'hui, on vient d'écouter le titre Back in the Woods. Et ça tombe bien puisque c'est effectivement dans une cabane dans les bois que le groupe a composé la majorité de cet album. Un retour à l'authenticité qui se ressent dans chaque note de cet album, mais toujours avec des petites subtilités, avec voilà plein de petites choses, plein de petits détails qui vont se révéler à vous au fur et à mesure mesure des écoutes. Donc ne laissez pas passer cet album de Rival Sons sans vous y intéresser, puisque si vous êtes amateur de hard rock, voilà, vous perdrez vraiment quelque chose. Retenez bien leur nom, Rival Sons. On va maintenant partir direction la Suède, ça tombe bien, on a à peu près le même temps que chez eux aujourd'hui, enfin du moins cette semaine avec la neige, on a peut-être un peu moins froid quand même, mais nous on n'est pas habitués, alors dès qu'il y a quelques centimètres on est un petit peu perdu. Eux j'imagine que ça les ferait bien rigoler. Il s'agit du groupe Evergrey qui sort également aujourd'hui un nouvel album, très attendu nouvel album qui s'appelle The Atlantic. Ces deux derniers albums étaient très très bien, donc autant dire qu'ils sont attendus au tournant, mais je pense qu'ils vont négocier le virage avec pas mal de facilité. L'album est très réussi, je vous le dis d'ores et déjà. Donc Evergrey, groupe qui nous vient de Göteborg, formé en 95 sous l'impulsion du chanteur-guitariste Tom Englund et du guitariste Dan Brunel, qui va quitter lui l'aventure quelques temps après la sortie du deuxième album. Alors là, au niveau du style, on est sur un mélange entre power metal et metal progressif, avec bien sûr toujours des nuances avec Evergrey. Des fois, on peut aller flirter un petit peu avec la scène death. Voilà, il y a tout plein de choses. Musique très très riche, très construite. Le groupe sort un premier album en 98, mais c'est avec le suivant, avec Solitude, Dominance, Tragedy en 99, que le groupe va commencer à attirer l'attention des médias. Quant à l'album suivant, In Search of Truth, en 2001, il va connaître un accueil largement positif et va permettre à Evergrey bien de sillonner l'Europe en première partie de Therion, une tournée qui va certainement avoir un impact non négligeable sur l'album suivant qui s'appelle Recreation Day, qui sort en 2003, où cette fois-ci c'est le public qui montre un intérêt grandissant pour les Suédois. Evergrey, qui est aujourd'hui une véritable référence en matière de power metal, de metal prog, a eu beau connaître plusieurs périodes d'instabilité en matière de line-up notamment, le capitaine du navire Tom Englund a toujours su redresser la barre, et on trouve parmi les 11 albums que compte sa discographie quelques très belles productions comme par exemple Hymns of the Broken, qui était paru en 2014, ou encore The Storm Within en 2016, qui était jusqu'alors l'album le plus dark et le plus mélancolique que la formation ait produit. Et cette tendance dark et mélancolique, elle se réitère, elle se confirme même sur The Atlantic, qui est le troisième et dernier volet de la série de concept albums sur le thème de l'aventure de la vie, à travers lesquels Englund nous parle de façon métaphorique cette fois-ci des rapports humains, mais également des différentes épreuves qui ont marqué sa vie ces dernières années. Et pour ce faire, eh bien cette fois, il nous plonge en pleine mer, et il nous entraîne en plein milieu des océans, qui, après avoir exploré, enfin, dans cet album, du moins, après avoir exploré les frustrations sur l'album précédent, cette fois-ci, avec The Atlantic, on va sur un constat amer sur notre condition humaine, où il suffit souvent d'un petit rien pour qu'une existence calme voit tout d'un coup les éléments se déchaîner autour d'elle. C'est un album qui est très beau, c'est un album qui comprend des compositions extrêmement bien écrites, interprétées impeccablement par le groupe, qui fait d'ailleurs preuve d'une maîtrise incroyable. Les arrangements des morceaux sont soignés, l'ensemble il est classe, il est puissant, donc voilà, hein. Et puis ça va faire plaisir aux amateurs de bon métal progressif, puisque en écoutant ce The Atlantic, on peut s'empêcher de penser aux illustres Dream Theater, Queensryche, Nevermore pour le côté un peu plus sombre. On peut dire que cette trilogie d'Evergrey, elle s'achève sur une très belle note. Voici un extrait de The Atlantic avec le titre A Silent Ark. Evergrey à l'instant sur Back FM dans l'émission Metal Check Me Load avec le titre Silent Arc, extrait de l'album The Atlantic qui paraît aujourd'hui. Alors là, le morceau qu'on vient d'écouter, normalement il est beaucoup plus long que ça, malheureusement on n'a pas le temps de l'écouter en entier, mais je vous invite à découvrir cet excellent album de nos amis suédois d'Evergrey qui termine vraiment très très bien leur trilogie composée de trois albums: Hymns of the Broken paru en 2014, The Storm Within en 2016 et donc The Atlantic arrivé aujourd'hui. On va rester en Scandinavie, on va partir en Finlande maintenant avec un groupe de Doom, un groupe qui s'appelle Swallow the Sun et qui fait également son retour aujourd'hui avec un nouvel album qui s'appelle When a Shadow is Forced Into, album qui avait été précédé il y a quelques semaines d'un EP 13 titres qui va avec cet album, l'un ne va pas sans l'autre, donc je vais pas vous présenter l'EP parce qu'il y avait qu'un titre et il est très long donc on va pas l'écouter, mais je voulais simplement le signaler. Nous, on va se contenter vraiment de se concentrer sur le nouvel album. Donc, Swallow the Sun, groupe qui nous vient de Finlande, créé en 2000 par le guitariste, alors je vais écorcher son nom parce que je sais pas le prononcer, ça s'écrit Juha Raivio. Voilà, je m'excuse par avance. Bon, je pense pas qu'il nous écoute, mais je m'excuse auprès de tous les Finlandais. Et à l'époque, ce guitariste, eh bien, il joue dans un groupe stoner rock qui s'appelle Plutonium Orange. Et il souhaite explorer certaines de ses compositions qui collent pas du tout avec le style de son groupe. Donc, il va se lancer dans la création d'un nouveau projet pour lequel il est rejoint par son compère qui s'appelle Pasi Passanen, qui est également batteur dans le même groupe, Plutonium Orange. Mais lui, voilà, il va rester dans Swallow the Sun que jusqu'en 2009. Donc avec ce groupe-là, on est plus du tout sur du stoner, on est sur un mélange de death et de doom. Le premier album du groupe, il s'appelle The Morning Never Came, il sort en 2003, il connaît un succès immédiat et il reçoit des critiques dithyrambiques. Swallow the Sun s'engage alors dans une gigantesque tournée qui va durer un an, avant de retourner sur les chemins des studios pour mettre en boîte cette fois-ci Ghost of Loss qui paraît en 2005. Et là, ça va être carrément un gros succès commercial en Finlande où dans les charts, l'album de Swallow the Sun va rivaliser avec Gwen Stefani quand même. C'est pour vous donner une idée. Alors bon, effectivement, en Finlande, c'est moins original que si ça arrivait chez nous, mais quand même. À ce jour, la discographie de Swallow the Sun, elle compte 7 albums studio. Le dernier en date jusqu'alors, c'était Song from the North en 2015, qui n'est rien de moins qu'un ambitieux triple album qui avait d'ailleurs été largement acclamé à sa sortie. Alors depuis, il s'est passé pas mal de choses, hein. Il y a la tristesse, le malheur qui sont un petit peu venus se mêler au destin de Swallow the Sun et en particulier de son leader, Juha Raivio, avec la disparition de la chanteuse Alea Stanbridge, qui était sa compagne, sa complice à la scène comme à la vie et qui était pour ainsi dire le septième membre du groupe depuis l'album New Moon en 2009. Alea est décédée d'un cancer en 2016, donc Juha Raivio était totalement anéanti. À ce moment-là, il aurait pu tout laisser tomber, mais une fois le chagrin apprivoisé, on va dire, l'inspiration, elle est enfin revenue, elle l'a même totalement submergée, un peu comme si elle était venue d'ailleurs, pour aboutir à ce nouvel opus qui est When a Shadow is Forced Into, dans lequel l'obscurité, si profonde soit-elle, et la tristesse, finissent toujours par laisser passer un petit rayon de lumière qui symbolise en quelque sorte la résilience dont l'être humain est capable de faire preuve après un tel drame. À travers des compositions qui sont aussi lourdes que délicates, Swallow the Sun nous bouleverse. When a Shadow is Forced Into, c'est un album ténébreux, sensible, majestueux. C'est également un très bel hommage à Alea Stanbridge. En voici un extrait avec le morceau Upon the Water.
of goodbye, farewell tonight, leaving with the tide, and the fire burns at the edge of the world, and the nightingale shines upon.
Swallow the Sun sur Back FM dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Vous venez d'écouter le titre Upon the Water, extrait du nouvel album du groupe qui paraît aujourd'hui, When a Shadow is Forced Into. Très très bel album de Death Doom, vraiment très bien composé, très bien écrit, très bien tout court, que je vous invite à découvrir. Alors, faut pas avoir le moral à zéro hein, pour écouter Swallow the Sun, mais voilà, devant tant de beauté, on ne peut que s'incliner. On va écouter un petit coup de live maintenant avec un groupe un peu culte quand même, le groupe King Diamond, qui fait son retour dans les bacs aujourd'hui avec un double CD DVD qui s'appelle Songs for the Dead Live. Songs for the Dead Live, ouais, c'est ça. Et que voilà, on attend depuis un moment qu'ils nous ressortent quelque chose, King Diamond, puisque depuis 2014, à part une compile, il n'y avait rien eu du tout. Et on commence quand même à parler d'un nouvel album qui serait en écriture. Donc voilà, ça, ce sera une affaire à suivre. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Mais avant, revenons un petit peu sur l'histoire de King Diamond, qui prend jour en 1985 à Copenhague, au Danemark. C'est un groupe qui est fondé sur les cendres du célèbre groupe de heavy metal Mercyful Fate par quatre de ses ex-membres, donc en tête le chanteur King Diamond, les guitaristes Andy LaRocque et Michael Denner, et puis le bassiste Timmy Hansen. La formation, elle va être ensuite rejointe par le batteur Mickey D. Alors Mickey D, ensuite, il va rejoindre Motorhead jusqu'à la fin du groupe, et désormais il est batteur au sein de Scorpion. Ça c'était pour la petite parenthèse, mais revenons si vous le voulez à King Diamond. Donc, les deux seuls membres fondateurs encore présents à ce jour, c'est le chanteur King Diamond et le guitariste Andy LaRocque. Pour le reste, le line-up a été totalement renouvelé au fil des ans. Pour ce qui est du style, tout comme Mercyful Fate, on est sur du heavy metal. Alors l'univers du groupe est très centré sur l'horreur, le fantastique, comme beaucoup de groupes dans ce genre, vous allez me dire. Et puis sur scène, on pourrait presque rapprocher King Diamond, tout comme Mercyful Fate d'ailleurs, du shock rock. Le shock rock, vous savez, c'est des groupes comme Alice Cooper, Kiss, qui ont lancé ça dans les années 70. Alors pourquoi on peut rapprocher King Diamond de cet univers? Eh bien tout simplement parce que le chanteur utilise le corpse paint depuis les années 80, alors que c'était encore assez peu répandu à l'époque. Depuis, les groupes de Death Black ont largement répandu cette pratique qui consiste à se maquiller la figure en noir et blanc. Et puis King Diamond, il utilise également en guise de porte-micro un os de fémur et un os de tibia qui sont assemblés pour former une croix à l'envers. Voilà, ça vous pose un petit peu l'identité visuelle du groupe. Depuis ses débuts, King Diamond a sorti 12 albums studio. Le premier, il s'appelait Fatal Portrait, il est paru en 86, et puis le dernier, c'était Give Me Your Soul, Please, qui est paru en 2007. Alors pour la majorité, il s'agit de concept albums dont les deux plus célèbres, et les deux meilleurs, je trouve, sont Abigail, qui est carrément culte, qui est paru en 87, et puis Them, paru en 88. Sinon, comme je l'évoquais il y a quelques instants, le groupe a donc pas sorti de nouvel album studio depuis 2007. Il y a eu une compile en 2014, mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. Alors il faut dire qu'en 2010, le chanteur King Diamond a eu de sérieux pépins de santé qui lui ont valu une lourde opération qui a été suivie d'une assez longue convalescence. Et le groupe était finalement revenu sur scène en 2012. Depuis, il tourne régulièrement. Et puis côté studio, comme je vous le disais, il y a un nouvel album qui est normalement en préparation. En attendant, eh bien, il faudra se contenter du double CD DVD live Songs from the Dead Live qui a été enregistré durant la tournée Abigail qui a eu lieu en 2015-2016. Alors, on y retrouve sur cet objet deux prestations du groupe en version intégrale. Il y en a une qui a été captée en Belgique durant le Grasspop Metal Meeting de 2016 et puis une qui a été captée aux États-Unis au Fillmore de Philadelphie en 2015. Et durant ces deux concerts, alors dont la setlist est identique mais voilà, est un peu différente parce qu'on est sur un voilà ambiance festival, sur l'autre ambiance un peu plus réduite, et bien King Diamond interprète l'intégralité de l'album Abigail plus bien sûr quelques-uns de ses classiques. Si vous étiez présent lors de leur passage au Hellfest en 2016, c'est ce show-là hein, que vous aviez pu voir. Et ben on va en écouter un extrait justement avec un morceau qui s'appelle I Revolve, qui est ici en live au Grasspop et qui est à l'origine paru donc sur le fameux album Abigail. Voici tout de suite King Diamond. Diamond en live avec le morceau Arrival, extrait à l'origine donc de l'album Abigail qui est paru en 1987, ici en live, enregistré tout récemment en Belgique en 2016 au Grass Pop Festival. C'est un extrait du live Songs for the... Songs, je veux absolument que ce soit From, mais non, c'est Songs for the Dead Live qui paraît donc aujourd'hui, double CD et DVD pour voir et écouter King Diamond en attendant d'avoir son nouvel album studio qui est en préparation, mais j'en ai pas plus à vous dire à ce sujet pour l'instant, mais on suivra cette affaire de très près, c'est promis. On va écouter une dernière nouveauté et un groupe français cette fois-ci. Il faut un petit peu de représentants de notre scène hexagonale qui est belle, qui a de nombreux groupes et des groupes de qualité en plus. Et là, on tient un futur grand groupe de la scène death. Enfin, du moins, j'espère, il le mérite. Ce groupe s'appelle Gorgon. Et la semaine dernière, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelle Elegy. Alors, Gorgon, c'est un groupe qui nous vient de Paris, qui est encore tout récent, hein, puisqu'il a été formé en 2013. C'est un quatuor qui est mené par le chanteur Paul Thureau. Alors, pour ce qui est du style, on est sur un death metal symphonique et épique qui est très influencé par les plus grands compositeurs de musique de cinéma de notre époque, comme par exemple Hans Zimmer, James Horner, Thomas Bergerson. Et donc, en 2016, Gorgon avait sorti un premier concept album qui s'intitulait Titanomachie, à travers lequel le combo nous plongeait bien en pleine mythologie grecque et nous narrait la guerre des titans à travers les yeux de Zeus et de Cronos. Un album aussi classe qu'ambitieux, qui était servi par une production parfaite, signée Jens Bogren, hein, voilà, qui laissait largement entrevoir l'énorme potentiel du combo parisien, qui, je pense, est vraiment taillé pour rivaliser un jour avec des formations comme Dimmu Borgir, Septic Flesh, Behemoth. Il y a un potentiel absolument énorme. Et donc, vendredi dernier, Gorgon était de retour dans les bacs avec son deuxième album, Elegy, qui, cette fois-ci, donc, nous sort de la mythologie grecque, puisque c'est un album qui se veut comme un hommage aux femmes, avec un thème qui s'articule autour de la création de l'univers et l'embryon naissant et grandissant dans le ventre maternel. Mais tout ceci en prenant soin de briser les frontières entre les dualités. Alors, les dualités telles que la science et la spiritualité, l'alpha et l'oméga, la vie et la mort, l'homme et la femme. Des chansons à travers lesquelles on croise beaucoup de symboles forts de la féminité avec des personnages, enfin des personnages comme Ève, comme Pandore, Hécate, la Vierge Marie également. Et le résultat est aussi puissant que grandiose. Gorgon, c'est définitif, hein, c'est un groupe qui possède vraiment l'étoffe d'une formation qui peut prétendre à une carrière internationale et qui s'installe en seulement deux albums parmi, je pense, les meilleurs groupes que compte notre scène Black Death Hexagonal. On écoute un extrait d'Elegy avec un morceau qui s'appelle Under a Bleeding Moon. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. L'excellent groupe parisien Gorgone sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Meload. Le titre que vous venez d'écouter, c'est Under Bleeding Moon, extrait du nouvel album du groupe qui s'appelle Elegy, qui est paru il y a une semaine. C'était le 18 janvier. Un groupe à suivre de très très près et je pense un de nos meilleurs espoirs en matière de scène death metal symphonique en France. Il y a de quoi vraiment un petit peu aller titiller les grosses formations internationales et j'espère que vraiment ce groupe va arriver à sortir du lot. Voilà pour Gorgone. Eh bien, on va s'arrêter là pour les nouveautés. On reprendra tout ça la semaine prochaine avec encore de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a de très bonnes choses qui vont arriver vendredi prochain. Pour l'heure, nous allons passer, alors aujourd'hui, double rubrique, à la fois rubrique sortez cover consacrée aux reprises et à la fois rubrique 20 ans dans tes dents. Il y avait quoi dans Check Meload il y a 20 ans? On écoutait quoi? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on va aussi se baser un petit peu sur voilà, sur un petit tout petit fait d'actualité, mais qui m'a fait sourire et qui m'a donné des envies pour aujourd'hui, puisque lundi dernier, nous étions le troisième vendredi de l'année, qui depuis 2005, et grâce à une agence de publicité britannique, a été déclaré comme étant le jour le plus déprimant de l'année. Et ce troisième vendredi, le troisième lundi de l'année, donc voilà, c'est le troisième lundi de l'année qui a été déclaré comme le jour le plus déprimant de l'année. Et ce jour, donc ce fameux troisième lundi de janvier, on le surnomme le Blue Monday. Alors c'est absurde, j'en conviens, mais moi ça m'a donné envie de vous faire écouter le groupe Orgy avec la reprise qu'a fait son succès, la chanson Blue Monday justement, qui était interprétée à l'origine par un groupe de New Wave britannique, New Order. C'est sur les cendres du génial groupe Joy Division que s'était formé New Order en 1980, juste après le suicide du chanteur Ian Curtis. Et ben au départ, c'était un groupe qui était dans la droite lignée post-punk de Joy Division, avec des chansons qui vont par contre pour New Order rapidement prendre un virage électronique pour s'inscrire pleinement dans le mouvement New Wave qui déferle sur l'industrie musicale en ce début des années 80. Le deuxième album du groupe de Manchester qui s'intitule Power, Corruption and Lies paraît en mai 83 et d'ailleurs son premier gros succès va être propulsé par un single qui n'apparaît même pas sur le disque et qui s'appelle donc, vous l'aurez compris, Blue Monday. Alors pourquoi il apparaît pas sur le disque? Et bien tout simplement parce qu'il est sorti quelques semaines plus tôt, le 7 mars 83, mais en format maxi 45 tours. Alors ce format, il a certainement été choisi du fait de la durée de la chanson, qui est de 7 minutes 30. Sinon, Blue Monday, c'est une chanson qui se caractérise par l'utilisation de synthétiseurs, de boîtes à rythme. C'est ce qui marque en fait l'entrée définitive du groupe dans l'ère électronique. C'est une chanson qui est très énergique, très dansante et qui va rapidement devenir une hymne dans les discothèques du monde entier. Blue Monday va devenir également le tube de New Order avec plus d'un million d'exemplaires écoulés rien qu'en Angleterre où la chanson va obtenir un record, celui de la longévité dans les charts britanniques. Il me semble qu'elle est restée classée plus de 2 ans si je dis pas de bêtises. Et puis son autre record c'est d'être devenu le maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire de l'industrie musicale. Pour ce qui est de la France, alors ça va être moins important qu'au Royaume-Uni puisque le single il va se classer qu'à la 38e place du hit parade, mais quand même, il va s'en vendre 80 000 exemplaires, donc c'est pas une paille. Et puis, signalons enfin qu'en 88, Blue Monday était ressorti dans une version remixée et a connu un nouveau succès commercial absolument gigantesque. Alors, il existe de nombreux remixes de cette chanson qui a également été énormément samplée, mais qui finalement n'a pas été tant reprise que ça. Sa reprise la plus connue jusqu'à aujourd'hui, c'est celle justement du combo californien Orgy, qui s'est lui-même fait connaître grâce à sa version new metal de Blue Monday, paru en 98 sur son premier album qui lui s'intitulait Candias. Alors là, on est sur une revisite qui est dans une veine très indus, qui va rencontrer aussi un très gros succès puisqu'il va se hisser au sommet des charts aux États-Unis. Mais c'est un petit peu plus rentre dedans si vous voulez que la version d'Orgy. Elle est plus énergique, mais quand même, ça reste quand même assez fidèle à l'original. Alors le Blue Monday version Orgy va être tout comme celle de New Order, popularisée une seconde fois. Ce sera en 2001, et grâce à la sortie d'un film qui s'appelle Sex Academy. Alors c'est une comédie qui parodie les teen movies que je vous conseille, si vous l'avez jamais vu, regardez ça ce week-end, vous allez vous marrer. Ça vole pas haut, mais c'est très très drôle. C'est un film culte. Et l'excellente bande-son de ce film, elle est composée exclusivement de covers de chansons des années 80, qui sont réinterprétées par des artistes qui sont issus de la scène punk, rock, metal. Alors par exemple, on y retrouve Marilyn Manson qui interprète Tainted Love, on y retrouve aussi System of a Down, Muse, et bien sûr il y a ce Blue Monday d'Orgy. Voilà, je pense que j'ai assez parlé hein, voilà, pour aujourd'hui. Je commence à avoir très très soif, donc je vais aller boire un petit verre d'eau, je vais laisser place à la musique, mais avant tout je vais vous souhaiter un très très bon week-end à tous, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. On se quitte avec Blue Monday de New Order, revu et corrigé par Orgy. Salut à tous.